Doute et méditation. Pratique méditative pour vivre en conscience de Deepak Chopra. Lu par Steve Drizan. À toutes celles et tous ceux qui créent un monde plus conscient. Introduction. Un appel à s'éveiller. Chère audiolectrice, chère audiolecteur, il existe une multitude de bonnes raisons de méditer, raisons qui remontent à des milliers d'années. Toutefois, ce livre n'a pas été écrit dans l'idée de se plonger dans le passé, mais dans l'avenir. Je vous parlerai dans cet ouvrage de l'importance de mener une vie consciente, c'est-à-dire d'être dans la lumière, de trouver la grâce et de se libérer de la souffrance. Car c'est ainsi que vous pourrez incarner le bonheur véritable. Et la méditation de la complétude est la clé qui permet d'accéder à tout cela. Si je peux vous convaincre qu'il vous est possible de vivre ainsi, ce qui vous attend est littéralement inimaginable. Les choses qui vous arriveront aujourd'hui, demain et pour le restant de vos jours ne relèveront plus de schémas prévisibles. Chaque journée sera synonyme de nouveauté et de créativité, à condition que vous n'entraviez pas la marche du bonheur. Mais d'abord, nous devons nous poser la question la plus fondamentale qui soit. Qu'est-ce qui rend une personne vraiment heureuse? L'amour? Une vie de famille posée? La réussite professionnelle? Etc. Il y a probablement autant de réponses que de personnes dans le monde. Mais au-delà des directions que nous avons l'habitude de prendre pour trouver le bonheur, la situation évolue. Quelque chose de nouveau, d'urgent et de palpitant est en train de se produire. Mais vous ne pourrez prendre part à ce changement qu'en explorant en profondeur votre vie quotidienne. Tout un chacun construit son bonheur autour d'un mode de vie. Jour après jour, nous faisons individuellement des choix en fonction de nos préférences. Par exemple, pour le dîner, voulez-vous manger chinois? Peut-être, peut-être pas. Ou alors avez-vous vérifié vos emails? Pas encore, mais cela viendra. Au cœur de ces choix anodins du quotidien se trouve quelque chose de plus important. Les décisions majeures que nous avons prises en rapport avec notre mode de vie. Ce n'est que dans les dernières décennies que la société a commencé à s'intéresser au fait que le bien-être de l'individu dépend essentiellement de son mode de vie. Vous êtes libre de choisir un mode de vie médiocre, tournant autour du tabagisme, de l'alcoolisme, de l'absence d'exercice physique et d'une alimentation riche en produits transformés. Mais avez-vous vraiment envie de vivre ainsi? De nos jours, on dispose de suffisamment d'informations pour éviter d'avoir à faire ces choix inconsidérés. Il est donc possible de faire des choix plus conscients, portant sur des aliments purs et sur l'importance de mettre son corps en mouvement de manière bénéfique et de respecter l'environnement. On pourrait même se demander quel est le mode de vie le plus élevé. Cette question peut être profondément transformatrice, et si elle est prise au sérieux, elle modifiera fondamentalement le sens que l'on donne au bonheur. De plus en plus de personnes font des choix bénéfiques en matière de mode de vie et décident de bien s'alimenter, de faire de l'exercice physique, de ne pas fumer, etc. Mais elles n'ont pas encore découvert le mode de vie le plus élevé qui soit. Ne vous en voulez pas. La société laïque moderne est organisée autour de tendances dominantes qui sont contraires à un bien-être durable, authentique. Presque personne n'est épargné par l'anxiété. Voici quelques-unes des tendances qui engendrent toujours plus de stress chez l'individu et qui compliquent les choses. Un rythme de vie de plus en plus rapide. Un déluge de distractions, notamment Internet et les jeux vidéo. De plus en plus de personnes vieillissantes et atteintes de démence. Un consumérisme effréné qui se répand dans d'autres pays. une fragilisation et un éclatement des familles traditionnelles. Une épidémie d'angoisse et de dépression. Des problèmes mondiaux, tels que le changement climatique, le terrorisme et l'exil des réfugiés. Un effondrement de la confiance dans les institutions publiques et la politique. Le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Ces difficultés persistent et se propagent. Chaque jour, on en entend parler ou on en fait l'expérience directe. Des problèmes aussi considérables sont inéluctables et l'individu, malgré toute sa bienveillance, sera incapable de les résoudre. Chaque problème, pris séparément sur cette liste, suffit à vous submerger si vous creusez la question en profondeur. Que ce soit l'épidémie de malaria en Afrique, la toxicomanie dans certaines régions sinistrées, le suicide chez les anciens combattants ou la maladie d'Alzheimer qui menace la génération du baby-boom, vous pouvez consacrer toutes vos journées à tenter de résoudre l'une ou l'autre de ces crises majeures. Certaines personnes se sont attelées à la tâche et s'il est vrai que l'on fait de grands progrès, il n'en demeure pas moins que la majorité de nos problèmes de longue date perdurent. Mais pour le commun des mortels, ces menaces constituent un chaos de fond qui n'a de cesse de les troubler. On aura beau faire l'autruche, ces problèmes nous rattraperont toujours. Même si l'on a une alimentation parfaite et si l'on fait de l'exercice physique, de la méditation et du yoga, on n'a pas la solution. En ayant tout cela à l'esprit, j'ai entrepris de trouver le meilleur mode de vie assurant le bien-être de l'individu malgré le chaos du monde moderne. Le mode de vie idéal peut être décrit très simplement. Il faut s'éveiller. Ou, en d'autres termes, être conscient de tout ce qui nous entoure. S'éveiller, c'est s'engager à sortir des sentiers battus et aller au-delà des croyances et opinions que nous tenons tous des autres, des attentes auxquelles nous nous accrochons et des désirs de l'ego. S'éveiller, c'est accéder à une conscience supérieure, autrement dit, plus profonde. Il ne s'agit pas d'un objectif distant, mais d'une réalité que l'on peut vivre au quotidien en commençant ici et maintenant. Les gens ne se rendent toujours pas compte de la prépondérance de la conscience. Être conscient, c'est remarquer quelque chose que l'on n'avait pas encore vu. C'est ne plus porter son attention sur quelque chose que l'on tenait pour vrai, mais sur quelque chose d'inattendu. Ce que vous faites de cette prise de conscience change littéralement tous les aspects de votre vie. Par exemple, quand on prend conscience qu'il commence à faire trop chaud dans la pièce où l'on se trouve, on baisse le thermostat. Ou alors, on se rend compte qu'une amie appelle moins souvent que d'habitude et on décide de lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles. Ces exemples simples ont pour but d'illustrer un fait essentiel. Rien ne peut changer dans la vie tant qu'il n'y a pas eu de prise de conscience. À première vue, cela paraît évident. Pourtant, il y a derrière ce principe une profondeur, une force et une ouverture sur de nouvelles possibilités que l'on comprend rarement. Notre mental fige la réalité. Mais s'il est vraiment ouvert, et s'il demeure sans confusion ni conflit, la réalité sera perçue sous forme d'un infini champ des possibles. Et si cela paraît exagéré, sachez que tel n'est pas le cas. Nous avons tout simplement appris à nous satisfaire d'attentes extrêmement limitées. Nous sommes piégés dans un niveau de conscience qui alimente le chaos et la confusion, quand bien même nous estimons que les choses vont bien dans notre vie. Au fil des années, à mesure que nos mauvaises habitudes sur le plan physique, mental, psychologique et spirituel ont pris racine, nous nous sommes enfermés. Et les murs que nous avons érigés autour de nous sont invisibles, car ils sont le produit du mental, mais ils n'en demeurent pas moins solides et parfois indestructibles.